Une agence immobilière, une petite annonce ?
Eh non, en allant voir mon conseiller LCL. Avec Angle 9, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle 9, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
France Inter,
première radio de France.
Bonne soirée avec nous sur France Inter, il est 20h. Luc Chemla pour l'info, bonsoir Luc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. C'était la première grande réunion politique sur le climat depuis la COP28 de décembre dernier à Dubaï. Les pays membres du G7 se sont réunis pendant 2 jours à Turin en Italie pour discuter environnement et stratégie face au changement climatique. Il en ressort un accord aujourd'hui entre les 7 plus grandes puissances économiques occidentales. Un accord qui acte notamment une étape importante vers la fin du recours aux combustibles fossiles. Concrètement, Guillaume Fariol, les pays s'engagent à fermer d'ici 2035 la quasi-totalité des centrales à charbon.
Les pays du G7 s'entendent pour supprimer leur production d'électricité au charbon au cours de la première moitié des années 2030. C'est écrit ainsi dans le communiqué final. Cet engagement, s'il est respecté, n'est pas négligeable. Les États-Unis, par exemple, ont brûlé l'an dernier 360 millions de tonnes de charbon. L'électricité produite avec cette seule énergie équivaut à 4 fois la puissance fournie par le parc nucléaire français. Restent les limites de ces annonces. D'abord, les centrales à charbon équipées de captage de CO2 pourront continuer de tourner, sauf que cette technologie est encore balbutiante. Elle n'a pas fait ses preuves, dénoncent les ONG. Et puis les engagements du G7, par définition, ne concernent que le G7. Pas la Chine, qui concentre la moitié de la consommation mondiale de charbon. Pas non plus l'Inde, l'Indonésie ou la Russie, 3 gros consommateurs qui ont même accru leur recours au charbon l'an dernier.
Et pour le ministre français Franck Riester, c'est un engagement fort, un signal fort du G7. Il représentait la France ces derniers jours à Turin sur les questions climatiques. Le Premier ministre israélien fait passer de nouveau un message aujourd'hui. Accord de trêve ou non, son armée entrera dans Rafah, localité du sud de la bande de Gaza. L'idée que nous allons arrêter la guerre avant d'avoir atteint tous nos objectifs est hors de question, prévient Benjamin Netanyahou. Le Hamas, de son côté, n'a toujours pas répondu à l'offre de trêve proposée. Elle prévoit 40 jours de cessez-le-feu associé à une libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Les rassemblements de soutien à la Palestine s'enchaînent dans les campus universitaires en France. Il y en a eu notamment aujourd'hui à Sciences Po Lyon, Grenoble ou encore Dijon. Manifestation dans le calme également à Saint-Étienne. Les forces de l'ordre sont tout de même intervenues ce matin pour libérer les accès au département des études politiques de l'université Jean Monnet, sans résistance de la part de la trentaine d'étudiants présents. À Menton, dans les Alpes-Maritimes, le campus Sciences Po est actuellement occupé et fermé jusqu'à nouvel ordre. Je suis une cible pour ma parole politique sur le sujet palestinien, déclaration de Rima Hassan après son audition tout à l'heure par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. La candidate insoumise aux européennes affirme avoir été uniquement questionnée sur ses propos lors d'une interview du média Le Crayon diffusée en janvier. Elle explique également que ce média a coupé au montage une séquence dans laquelle elle affirme que le Hamas est une organisation terroriste. La présidente des députés LFI Mathilde Panot a elle aussi été entendue aujourd'hui. Enquête ouverte après des menaces de mort adressées à 2 magasins hyper-cachers à Paris et à une synagogue dans le Val-de-Marne. Elles ont été reçues dimanche dernier d'après le parquet. Ces menaces interviennent en pleine fête de Pessa, la Pâque juive, qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Mi-avril, le ministre de l'Intérieur avait demandé au préfet de renforcer la sécurité des lieux de culte juif. Il était rempli de bijoux de luxe. Un fourgon a été braqué ce matin à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Il était bloqué par 2 voitures avant d'être vidé puis incendié. Le préjudice est estimé à 560 000 euros. 4 personnes sont soupçonnées et recherchées. De sources policières, elles étaient cagoulées et armées de fusils d'assaut. Entre 120 000 et 150 000 personnes attendues demain dans les rues pour les traditionnelles manifestations du 1er mai. C'est ce qui ressort en tout cas d'une note des renseignements territoriaux. Des cortèges sont prévus un peu partout dans le pays, notamment à Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Grenoble, Marseille ou encore Bordeaux. Bayern Munich, Real Madrid, voilà la première affiche des demi-finales de la Ligue des Champions, c'est du football. Le match aller a lieu ce soir à 21h. De leur côté, les Parisiens sont arrivés tout à l'heure en Allemagne. Dans l'autre demi-finale, ils affronteront demain le Borussia Dortmund.
France Inter, 16h, Mathieu Noël.
Les cartes aussi sont politiques. Ce mercredi, zoom sur ces zones encore oubliées des cartographes. Pourquoi le sont-elles d'ailleurs oubliées? Zoom sur le blanc des cartes.
Zoom zoom zen, tous les jours à 16h sur Inter.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
France Inter, il est 20h05 à suivre Grand Canal avec Eva Bester. Bonsoir Eva.
Bonsoir Luc. Aujourd'hui, je reçois le collectionneur d'art Antoine de Galbert qui présente un large choix d'œuvres sur tout un étage du Musée d'art contemporain de Lyon dans l'exposition Désordre, visible jusqu'au 7 juillet prochain.
Mais tout de suite, le temps de se brosser les dents. Voici Les Petits Bateaux avec Camille Cronier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, ça sent pas un peu mauvais par ici?
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir où vont les deux chats quand ils sont dans le camion poubelle. Merci, au revoir.
Ah, le mystérieux voyage du camion poubelle. Anna, je suis avec Sabine Barle, professeure d'urbanisme à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui a fait un livre aussi il y a quelques années sur l'invention des déchets en ville. Quelle est donc la destination finale de nos poubelles?
Alors Anna, bien, il y a quelques années, c'était facile de répondre à cette question parce que il se passait pas grand-chose quand les déchets étaient mis dans le camion poubelle. Soit ils allaient en décharge, donc on allait les déposer sur un grand terrain et puis les empiler sur ce terrain, soit ils allaient dans des incinérateurs, c'est-à-dire qu'on les faisait brûler. Mais depuis une trentaine d'années, disons, on procède au tri. Tu as probablement vu que chez toi, il y a plusieurs poubelles. Et dans chacune de ces poubelles, on met des choses différentes. Et donc, ces différentes poubelles, elles vont avoir des destinations différentes. La poubelle qui contient, par exemple, les papiers, cartons, plastiques et même canettes des boissons, elles vont aller dans un centre de tri où on va séparer tout ça. Et puis, on va amener ce qu'on a séparé dans des usines, par exemple dans une usine pour faire le recyclage des plastiques. Et là, on va transformer les plastiques en petites billes de plastique qui vont être réutilisées pour fabriquer de nouveaux plastiques.
Dans le meilleur des cas, hein, c'est pas toujours le cas.
Oui, sachant qu'il y a beaucoup de plastiques qui ne sont pas recyclables, donc qui, eux, vont être écartés de cette destination. Et puis, pour les papiers cartons, on va faire de nouveaux papiers cartons. Et pour ce qui concerne tout ce qui vient des déchets alimentaires, on a deux possibilités. Soit on va les amener dans une espèce de gros réservoir fermé dans lequel on va produire un gaz qui s'appelle du méthane, qui peut être mis dans le réseau de gaz que tu as peut-être chez toi, mais il n'y en a pas partout des réseaux de gaz, et qui sert au chauffage ou à l'eau chaude ou à faire cuire les aliments. Ou bien on va fabriquer du compost. Le compost, ça sert à amender et à fertiliser les terres agricoles. Et puis, ce qui reste, ce qui n'est pas dans ces poubelles de tri, ce qu'on appelle parfois les ordures résiduelles, comme reste, ça va aller donc soit en décharge, soit dans un incinérateur. Et dans cet incinérateur, ce que l'on va faire, c'est que l'on va produire de la chaleur ou de l'électricité, ou les deux. Et cette chaleur, elle va permettre notamment de produire du chauffage urbain et donc d'amener du chauffage dans les maisons. Et donc, c'est assez pratique.
Et tout cela, enfin, je le redis, mais dans le meilleur des cas quand même.
Je l'ai décrit en donnant l'impression que tout était recyclé de façon optimale, etc. La réalité est un petit peu différente parce que ces filières de recyclage ne sont souvent pas très rentable. Et donc, ça fait que ce recyclage n'est pas toujours fait de manière très précise. Il n'est pas fait de façon aussi importante dans toutes les villes. Il y a beaucoup de villes en Europe qui ne le pratiquent pas encore, même si la loi dit qu'il faut le faire. Donc, il vaudrait mieux arriver à produire moins de déchets même s'il faudra les recycler après, ce serait la meilleure solution si on voulait s'en sortir.
Voilà, moins de déchets, des toutes mini poubelles. Un beau défi tient à faire à la maison. Salut les matelots.
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et tout de suite, on retrouve Eva Bester pour Grand Canal. Bonsoir Eva.
Bonsoir Camille, le collectionneur d'art Antoine de Galbert est en studio. Chers auditeurs, préparez-vous à découvrir de nombreux artistes. Collectionneur passionné d'art contemporain, d'art brut et d'objets ethnographiques, Antoine de Galbert a créé la fondation qui porte son nom et fondé et présidé l'ancien lieu d'exposition La Maison Rouge à Paris. Cet ancien galeriste expose en ce moment un large choix d'œuvres de sa collection personnelle sur tout un étage du musée d'art contemporain de Lyon. Intitulé « Désordre », extrait de la collection Antoine de Galbert, l'exposition se tient jusqu'au 7 juillet prochain. Vous y verrez du sang, de la nudité, des néons, des croix, des êtres à plusieurs bras, des prothèses oculaires et des créatures fantastiques avec lesquelles on ne voudrait pas se retrouver seul la nuit tombée. Récemment, le collectionneur a retracé un récit visuel du siècle dernier en photographie dans l'exposition « Une histoire d'images », donation Antoine de Galbert au musée de Grenoble, ville natale du collectionneur qui n'en est pas à son premier don. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Antoine de Galbert.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Alors ça, je m'attendais à cette question, je vous avoue. Et je me suis dit, en me réveillant ce matin, bah merde, j'aurais jamais dû accepter votre invitation, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ?
Vous ne pensez pas ?
Non, mais en fait, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Je me demande vraiment ce qu'on va dire, mais ça dépend de vous.
Ah mais non, là, ça dépend de vous.
Oui, on va voir. Ouais.
Alors, rentrons dans la tête d'Antoine de Galbert, si elle le permet. Il y a bien quelque chose qui vous a préoccupé plus que le reste aujourd'hui ?
Écoutez, non, j'avais un rendez-vous... au Théâtre des Bouffes du Nord, parce qu'on mécène un artiste formidable qui s'appelle Fantasio, et on prépare son intervention. Il a fait un film, d'ailleurs, c'est une bonne entrée en matière, puisque c'est un des... On a mécéné son film, qui sera projeté, et à la suite duquel il va faire un petit spectacle. Ça sera le 11 juin, voilà, j'en profite.
A-t-il un chapeau comme Fantasio ?
Non, c'est un surnom, c'est un pseudonyme, mais c'est un formidable... artiste pluridisciplinaire. Donc j'étais un peu là-dedans, parce qu'on avait rendez-vous au Bouffe, qui est un théâtre absolument magnifique.
Antoine de Galbert, en 2022, à Lisbonne, vous avez exposé des œuvres de votre collection sous le titre « Traverser la nuit ». Comment est-ce que vous traversez les nuits ?
Écoutez, relativement bien au début, et très mal à la fin. C'est-à-dire que je me lève à 5h, 6h, et comme il y a pas mal de gens, je crois, qui se lèvent très tôt.
Mais sans le vouloir.
Non, c'est comme ça, c'est mon corps qui me force à me lever. Et alors donc, je m'occupe, je lis, j'envoie des Instagram avec des œuvres d'art. Voilà, mais la vie est organisée comme ça.
Quand on a des collections, en fait, ça rend intense, ça double quelque chose qu'on fait déjà dans la vie, c'est qu'on pense sans cesse à l'après. Est-ce que ça plonge pas dans des états trop mélancoliques de toujours se demander qu'est-ce que je vais faire de ma collection après ma disparition ?
C'est un sujet majeur, parce que plus on vieillit, évidemment, plus le sujet nous envahit. Qu'est-ce que ça va devenir ? Et alors, je vais vous dire une chose, quand il s'agit d'œuvres connues qui ont une valeur économique, bon, c'est pas un problème, parce qu'on peut... ou les héritiers, ou on peut toujours les vendre, ou les offrir à des grands musées qui les acceptent avec plaisir. Mais tous les amis qu'on a achetés, toute une vie, comme ça, les voisins, les copains, qui sont des œuvres qui nous sont proches affectivement, mais qui ne sont pas dans le marché. C'est-à-dire que la plupart des artistes n'ont pas de valeur économique. Je dis bien économique. Et c'est ça qui m'angoisse le plus. Parce que j'en fais quoi? Ça devient quoi? Vous voyez? Et donc, en fait, on ne peut pas plaindre un collectionneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas l'être. Donc c'est clair. Mais en fait, ça génère beaucoup d'angoisse, et surtout avec les années qui passent.
Donc le collectionneur pense plus à la mort ?
Je ne sais pas s'il pense à la mort, mais la mort, elle est là. Bon, voilà. Non, il pense plutôt à ce que tout ça va devenir. Vous voyez ? et il se dit il faut arrêter, s'alléger, il faut. Et puis en fait, on n'arrête pas, parce que moi, je ne peux pas arrêter. Donc, il n'y a que la mort et la ruine qui nous arrêtent.
Il y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser. Pas la peine de me dicter comment faire et quoi penser. Je m'isole, loin du sol, là-haut, dans une montagne, à faire des vagues, loin de vos marées. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au seuil. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps. Y'a des jours où tout m'inquiète, quand j'entends le genre d'idées qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y'a des choses qu'on accepte tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête et des envies d'exploser. Qu'on m'isole, loin du sol, là-haut, dans une montagne, je ferai mes vagues loin de leur marée. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour l'heure, en moi, ça bouillonne, j'ai la soupape qui déconne, j'ai les humeurs changeantes, la gorge en panche et les jambes.
Seul de voyous.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Antoine de Galbert, je vais commencer par quelque chose d'un peu sombre, mais d'essentiel pour comprendre comment vous est venue cette vocation. Votre père, ancien résistant, est mort dans un accident de voiture lorsque vous aviez 3 ans. Et vous avez été adopté par votre beau-père, issu de la famille des frères De Forêt, les fondateurs des magasins Carrefour. Et vous avez reçu un patrimoine qui a suscité chez vous de la culpabilité. Vous vous êtes demandé qu'en faire. Alors d'abord, collectionner et puis exposer, ne serait-ce que pour les artistes.
Alors, juste petite remarque, mon père n'était pas résistant. Mais en revanche, il s'est engagé dans l'armée et il a fait la campagne d'Allemagne. Bon, c'est un détail. C'est pas vraiment un détail, mais c'est...
Ici, on aime les détails.
Et puis, je m'attendais à ce que vous parliez de ça, parce que c'est... À chaque fois, on me parle de ça. Je sais pas si j'ai culpabilisé, mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Plutôt que de terminer le plus riche du cimetière, comme on dit à la campagne, autant faire des choses intéressantes et en faire profiter, parce que c'est vraiment ça, quand même.
Vous avez fait d'importantes donations à des collections comme celle du musée des Confluences de Lyon, au musée de Grenoble, au centre Pompidou, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Est-ce que le don pur existe? Le don dénué d'intérêt?
En ce qui concerne donner une œuvre, oui, j'ai pas d'intérêt à part une certaine fierté. Quand j'ai donné ma collection de coiffes ethnographiques au musée des Confluences, quand j'ai vu l'exposition, j'étais extrêmement fier et heureux. Donc oui, mais de l'intérêt, à part d'être aimé...
C'est l'intérêt essentiel de toute existence. Oui.
Non, et puis plus le temps a passé, plus j'attache de l'importance aux collections publiques. c'est là que j'ai finalement beaucoup appris, que j'apprends encore beaucoup. Et je pense que cette notion de patrimoine public est, pour moi, est devenue essentielle. C'est-à-dire que pourtant, je suis issu d'un monde privé, mais je crois qu'il faut enrichir nos musées, enrichir évidemment par des donations ou des dons tout court. Et c'est assez curieux parce que je viens pas du tout du monde des musées, mais j'en suis mais vraiment de plus en plus convaincu. C'est une chance inouïe que ce patrimoine appartienne à tout le monde. Et voilà, mais mes donations sont pas énormes non plus. Enfin, c'est un début. Mais oui, j'ai commencé à faire des dons. Et...
Antoine de Galbert, je pouvais pas m'empêcher de penser à une chose quand je travaillais sur vous. Je me disais, mais il a jamais voulu être artiste. Et puis j'ai trouvé la réponse dans des interviews. Si vous vouliez être artiste, et puis vous, en fait,
non,
vous,
en fait,
vos aquarelles.
Non, mais vous savez, être artiste, c'est pas un talent. C'est décider qu'on est artiste. Alors il y a des gens qui sont nuls, qui décident qu'ils veulent être artistes.
Vous avez décidé à 15 ans.
Alors moi, je faisais de l'aquarelle, et quand je voyais la tête de mes enfants quand je revenais de mes campagnes d'aquarelle, j'ai assez vite compris que c'était quand même pas vraiment ma meilleure qualité, ma vraie vocation. Mais ceci dit, j'ai essayé de dessiner, de tenir des pinceaux, et c'est pas finalement, enfin c'est assez intéressant parce que du coup, on respecte d'autant plus le geste de l'artiste quand on a, vous savez, c'est comme si vous avez jamais joué au foot, vous pouvez pas dire que Mbappé est génial.
Aussi.
Vous vous en foutez. Enfin bon, en général, les gens s'en foutent. Mais moi, j'ai beaucoup joué au foot et je peux vous dire que quand je regarde des matchs de foot, j'ai l'impression que c'est moi qui tire, quoi. Donc ça, c'est assez important de savoir ce que c'est que, comme c'est difficile de retranscrire quelque chose sur un bout de papier. J'ai beaucoup d'admiration quand même pour les artistes.
Vous avez rêvé à un moment d'être Hugo Pratt.
Oui, mais ça, c'était mes jeunes années. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça.
Bah, partout, partout.
Alors, j'ai été passionné de bande dessinée. J'ai commencé vraiment par m'intéresser à l'illustration du 19e aussi, les grandes villes, Doré, tous ces gens-là.
Sublime.
J'adorais ça. Et puis ensuite, l'imagerie, j'étais très paresseux. Donc la BD, c'est le cadeau absolu pour les paresseux. Je préférais lire des BD que lire Madame Bovary, quoi. Et du coup, ben, je suis rentré comme ça dans le vif du sujet, dans l'art. Je suis entré en art, j'aime bien dire ça comme ça, par l'illustration. Et ce qui explique que je me suis beaucoup intéressé à la figuration et beaucoup moins à l'art conceptuel. Après, j'ai un peu réparé mes lacunes, mais j'ai une vraie histoire assez cohérente.
Vous pensez qu'une collection peut être une œuvre d'art ?
Alors, c'est pas vraiment ce que je dis, parce qu'après, on pense que le collectionneur se prend pour un artiste. Je pense que il y a deux types de collections. Il y a des accumulations, parfois de merveilles, de trésors, qui sont pas le fait d'un créateur, qui sont le fait de... Finalement, il y a deux types de collectionneurs. Il y a celui qui écrit son monde, qui réécrit l'histoire, qui finit par avoir accumulé tellement de choses cohérentes qu'on peut dire que sa collection fait œuvre. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, n'est pas une œuvre, encore que. Pas, certaines sont des œuvres. Hein. Et puis, il y a les autres qui font ce qu'ils peuvent et qui sont un petit peu influencés par la médiatisation, par les grandes enseignes commerciales, les grandes galeries, par l'actualité. Donc, ça les rassure parce qu'ils ont amassé des choses qui sont confirmées à court terme par tout ce système médiatico-financier.
Oui, alors que vous, Antoine de Galbert, vous dites que vous prenez le marché de l'art pour un gag. En fait,
non, j'ai pas dit ça. Non.
Ah bon ?
Non, non, je m'y intéresse beaucoup parce que j'en dépends, puisque si les prix deviennent trop chers, je peux plus acheter. Non, ça m'intéresse beaucoup, mais il faut dissocier l'art et le marché de l'art, c'est tout. Mais on peut pas ignorer le marché, l'art et l'argent, c'est une histoire millénaire, donc voilà, ça existe.
Et tout de même, votre devise en tant que collectionneur, c'est coup de foudre et urgence.
Ouais, alors,
pourquoi urgence ?
Urgence, c'est parce que je... Vous voyez, il m'arrive des choses incroyables parce que je peux passer devant un Rothko, le grand Rothko qui a été vénéré là récemment, sans même me retourner. C'est-à-dire, ça m'intéresse absolument pas. Et de toute façon, même si ça m'intéressait, c'est pas dans mes prix. Et en revanche, quand je vois une œuvre qui est faite pour moi, ou que je crois avoir été faite pour moi, il faut que j'achète tout de suite. C'est une sorte de possession maladive. Et donc, je vais très, très vite, effectivement. Donc,
comme un Don Juan d'œuvres.
Si vous voulez, il y a des grands intellectuels qui regardent les œuvres, qui les analysent, qui les expliquent. Moi, je ne regarde que celles que j'ai envie d'acheter. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas de la vulgarité, c'est une forme de besoin de possession qui est absurde, parce qu'on finit par ne plus regarder un chef-d'œuvre et par uniquement chercher comme un chien truffier, comme ça. Non, c'est un peu maladif.
Hein. Justement, vous dites que plus vous avez accumulé, plus vous avez compris qu'il s'agissait d'une vraie maladie.
Ah bah oui, parce que c'est... J'ai dit souvent ça, je pense que le plaisir peut devenir vice. C'est un peu le truc, quoi. C'est un peu comme déguster un grand vin et en boire quatre bouteilles.
Alors, comment vous faites face à tout ça, Antoine de Galbert?
Je fais ce que je peux. Je m'interdis le samedi, je reste chez moi, par exemple.
Comme un alcoolique.
Non, mais je fais un peu d'humour, mais c'est un peu vrai. Parce que dès que je sors, je ne peux pas m'empêcher de revenir avec un truc.
Vous dites aussi que l'art vous aide à conjurer vos peurs. Quelles sont-elles?
Alors ça, c'est un autre sujet. C'est plutôt l'analyse psychologique des collectionneurs. Et qui se rassurent, qui sont un peu comme des hamsters, vous voyez, les hamsters...
C'est rassurant de se dire qu'on est comme un hamster.
Non, mais les hamsters se blottissent parmi leurs coquilles, leurs machins, leurs noix. Et nous, on se rassure. Mais en fait, en vieillissant, ça fonctionne de moins en moins bien, parce qu'on se rassure peut-être, mais les œuvres sont là, et elles vont nous enterrer. Enfin, je suis un peu dramatiquement triste, mais c'est un peu vrai, quoi. Il faut résoudre ça avant de partir. Il faut essayer de tout vendre ou de tout donner.
Vous pensez qu'on peut le résoudre?
Oui, parce que je pense que ça doit être très violent, mais je pense que moi, je ressens maintenant un moment un besoin de m'alléger, oui.
Est-ce que ça vous manque, la Maison Rouge?
Alors, pas du tout. C'est très étonnant. Ça a été une aventure extraordinaire. Grâce à une équipe dirigée par Paul Eisenberg, il faut que je la cite. Et une équipe géniale. C'était quasiment une famille pour moi. C'était vraiment... Bon, ils étaient salariés. C'était une structure économique aussi. Mais et à un moment, j'en ai eu marre. Alors, d'une part, ça me coûtait très cher, parce que je ne suis pas un capitaine d'industrie, moi. Et d'autre part, j'avais la sensation que j'allais faire des expos trois fois par an, comme ça, jusqu'à 90 ans. Et je me suis dit, le grand luxe dans la vie, c'est vraiment un grand luxe, c'est de pouvoir changer de métier, Très peu de gens peuvent changer. Beaucoup de mes amis sont dans le même boulot jusqu'à la retraite et en ont marre. Alors, c'est pas changer pour ne rien faire, c'est changer pour faire différemment. Et on fait tellement de choses avec cette fondation, qui est toujours la même d'ailleurs, mais qui n'entretient plus la Maison Rouge, que finalement je suis ravi. Donc ça me manque, mais absolument pas. Et puis je pense qu'il faut pas vieillir. Nous-mêmes, il faut pas qu'on vieillisse, mais il faut pas que les lieux vieillissent non plus. Vous voyez, si Marilyn était encore en vie, vous rendez compte.
Elle serait dévastée.
À quoi elle ressemblerait, ça?
Parce que vous dites. Antoine de Galbert, vous avez déjà montré des extraits de votre collection personnelle au Musée des Beaux-Arts de Lyon, de Grenoble, au MAD de Lisbonne, au Portugal, et au Muséum Sztuki de Lodz, en Pologne. Alors rien ne m'étonne, sauf Lodz, qu'on prononce Łódź en polonais. Oui. Étant à moitié polonaise et connaissant un peu la ville, j'ai envie de vous demander ce que vous faisiez là-bas.
Alors c'était une rencontre, et puis il faut savoir que le musée de Łódź est un musée historique qui a été des collections constituées avant la guerre. C'est assez incroyable, d'ailleurs, compte tenu de l'histoire de la Pologne, de l'arrivée des soviétiques, etc. Et c'est un musée extraordinaire, où il y a des collections magnifiques, très polonaises, style Opalka, enfin, tous les grands artistes. Mais alors, on n'a pas eu de chance, parce que c'était juste au moment du Covid, et donc l'expo a été fermée très rapidement. Heureusement, on a un petit catalogue. J'avais fait une expo très politique, avec des gens charmants, et à l'époque, il y avait encore un régime un petit peu extrémiste, un petit peu d'extrême droite, comme on dit, et donc c'était des résistants, finalement. C'était une ville qui était un petit peu en dehors de... Ah, maintenant, ça a changé, heureusement. Non, c'était un très beau souvenir, un peu triste, parce que c'est pas un pays très gai. Et puis la charge historique est tellement forte, tellement dense, violente, répétitive, que on sent tout ça. On sent vraiment que... Et puis il y a eu beaucoup d'exodes, et les Polonais, mais pas seulement la communauté juive. Il y a beaucoup d'artistes polonais qui sont partis, et la population est rude, est un peu rugueuse.
Mais avec
les chauffeurs de taxi, oui, mais l'humour...
absurde.
En tout cas, c'était une expérience formidable. Et avec Arthur Toquet, qui bosse avec moi depuis 20 ans, on avait fait une expo super, mais très très assez violente, assez...
Oui, c'était tout. Ouais. L'art est assez violent en Pologne.
Ouais.
Vous dites, Antoine de Galbert, que vous avez longtemps refusé de montrer votre collection parce que vous aviez peur de cette mise à nu. Je vous cite, non pas que je craigne de me révéler car je suis sûre de ce que j'aime, mais j'avais peur d'être mal compris.
Non, je ne voulais pas qu'on croie que je crée une fondation pour montrer mes œuvres. Ça aurait été un peu... Donc c'est vrai qu'à la Maison Rouge, j'ai fait une petite expo à un moment. Non, on a fait une grande expo vers la fin, enfin, ou en 2000... je vais dire une bêtise, je me souviens plus, qui s'appelait Le Mur.
À la Maison Rouge.
Et là, j'ai fait une expo très insolente, volontairement, un peu pour contrer la prétention du marché de l'art, de la médiatisation, les paillettes, quoi. Et du coup, on a mis au mur 1200 œuvres, je crois, murales, y compris celles que j'avais achetées il y a 40 ans, ou tout, quoi. Il y avait un Fontana, puis à côté, il y avait ma voisine, quoi. Donc, et on a fait ça avec un ordinateur, et c'était une expo qui a été évidemment critiquée.
Mais quand vous dites ordinateur, je vous interromps, parce qu'il faut que vous expliquiez aux auditeurs, c'est un algorithme.
Ce que je voulais, c'est dire que pour dans un temps limité, c'est-à-dire le temps d'une exposition, on avait envie que tous les artistes soient au même niveau. C'est-à-dire que... Et en réalité, c'est ce qui se passe. En réalité, aucun des artistes... Il y avait des artistes très connus et totalement inconnus. Et aucun des artistes ne s'est plaint. C'est-à-dire qu'au fond des choses, il y a une vraie confrérie entre les artistes.
Ah bon ?
Oui. Alors après, le monde fait qu'ils deviennent aigris, jaloux, paranoïaques, insatisfaits, en permanence en demande. Mais au fond des choses, moi j'ai vu des discussions entre, je sais pas, par exemple Boltanski qui discute avec des jeunes. Enfin, il s'est passé une chose extraordinaire. J'avais peur parce que c'était un carnage visuel quand même. Hein. Et puis j'étais gonflé parce que j'ai mis des choses que, non pas que j'aimais plus parce que j'aime toujours tout ce que j'ai fait, mais que je n'achèterai plus aujourd'hui. C'est normal. Et puis en fait, ça marchait. Parce que tout ça, c'était mes enfants, quoi. Un peu. Enfin, je métaphorise un peu, mais c'était acheté par la même personne. Et du coup, il n'y avait pas de mensonge. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai acheté ça, j'aimais ce que j'ai acheté. Toujours. Même si aujourd'hui, bon, il y a des trucs, c'est normal. On évolue comme les artistes eux-mêmes évoluent. Donc c'était vraiment une très belle expérience, assez amusante et techniquement incroyable.
Always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you're still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You ought to remember that, for you live to regret that. Now you go front on me. Fuck your sorry, so
So chasing the bus.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Antoine de Galbert, récemment au musée de Grenoble, vous avez montré une exposition retraçant différentes donations en 270 images réalisées par 95 photographes. Une histoire d'images, c'était le titre. Que pensez-vous du siècle dernier et du nôtre?
C'est absolument effrayant. Le 20e siècle est le pire de tous.
Ah, vous pensez? C'est plutôt rassurant, alors.
Oh oui, c'est effrayant. Et puis, alors, nous, on est une génération, enfin, on était sûr de ne pas connaître de guerre. On était personne ne sait tenir un fusil en France, hein, à part les militaires de profession. On est complètement, même trop pacifiste, peut-être. Je sais pas, on se trompe peut-être en ce moment. Ça m'angoisse énormément. Moi, j'adore l'histoire et j'avoue que ça me fait peur, quoi. C'est une de mes grandes inquiétudes et je ne dois pas être le seul,
non.
J'imagine. Et je suis très angoissé, en fait, par les choses qui reviennent. Je ne parle même pas de l'antisémitisme, qui est quelque chose de très particulier, dont il faut parler avec précision. Mais par exemple, ce qui se passe en Russie, ou le Chinois qui va nous rendre visite bientôt, qui devient un véritable dictateur. Enfin, il y a des choses qui recommencent. Et alors, où est l'ONU, par exemple? Dans les années 30, ce qu'on appelait la SDN était devenue incapable, incompétente. Et finalement, on n'était plus capable de gérer les affaires du monde entre nous. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est la même chose. On a l'impression que... Comment voulez-vous que Poutine, qui a le droit de veto à l'ONU, comment voulez-vous que l'ONU... Enfin bref, tout ça m'inquiète énormément, mais vraiment très gravement, quoi. C'est très sombre dans ma tête. J'ai peur, en fait.
Alors, je vais vous sauver temporairement, ouais, pendant quelques minutes, Antoine, ouais, de Galbert.
Mais parlons d'autre chose. Oui,
mais alors, en fait, là, le mot qui me vient en vous écoutant, c'est chaos, et ça tombe vraiment bien, puisque l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée d'Art Contemporain de Lyon, c'est désordre. Mmh. Et vous aviez déjà fait une exposition qui s'appelait Un certain désordre à Moscou. Qu'est-ce que vous aimez, oui, tant dans le désordre?
C'est un postulat. C'est-à-dire que pour moi, alors, j'ai rien contre l'histoire de l'art, qui m'a appris beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal avec l'histoire de l'art contemporain, c'est-à-dire que les gens qui s'emparent de l'avenir, qui décident de ce qui est bien et mal, et je pense que j'ai beaucoup appris quand dans mes années dauphinoises, parce que j'allais souvent chez un vieil ami, Paul Gauzit, qui avait une galerie, ou qui a toujours d'ailleurs une galerie extraordinaire, et où il pouvait montrer à la fois un objet, un tableau du 19e, un masque africain, un tableau abstrait, enfin vous voyez, et j'ai l'air un peu crétin de dire ça, mais c'est là où j'ai appris l'universalité et la relation entre les œuvres amies entre elles, les œuvres qu'on achète sans savoir qu'en fait elles se sont déjà rencontrées. Vous voyez, et donc le mot désordre, pour moi, c'est, en fait, c'est pas du désordre, c'est la condition d'une collection. Donc si je dis désordre, c'est parce qu'aux yeux des gens, c'est désordonné. Aux yeux des gens, ce que ma collection est hétéroclite ou éclectique, je déteste ces mots. L'art n'était pas éclectique, c'est la moindre des choses. Donc je fuis les ghettos et les cloisonnements contemporain, brut, machin, tout ça, je mélange tout.
Alors l'exposition rassemble plus de 200 œuvres de plus de 150 artistes, sans hiérarchie ni classement. Mmh. Mais vous dites, j'y reviens quand même, parce que vous dites, Antoine de Galbert, il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche, c'est bordel. Vous dites que quand vous arrivez dans une foire d'art contemporain, vous êtes comme Simenon dans un bordel.
Oui, c'est-à-dire. Alors vous êtes gonflé d'avoir retrouvé ça.
Ah bah oui, je suis
gonflé.
C'est
un peu ça. Il y a un côté, il y a un aspect sexuel peut-être dans la recherche des œuvres, un désir très, très. Non, mais c'est une bonne métaphore. Oui. Et puis il y a aussi le bordel, c'est aussi un terme de. On avait reçu à la Maison Rouge Pierre Legendre, qui est décédé, je crois, maintenant, qui était une sorte d'intellectuel incroyable. Je crois qu'il est très connu dans les milieux universitaires. Et il parlait, à un moment, il me semble qu'il parlait de la collection comme d'un bordel animiste. Et je trouvais ça magnifique. Alors après, j'ai un peu essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. C'était pas tout à fait adapté au titre d'une expo, mais le bordel, c'est la joie aussi. C'est les deux. Hein, c'est
Dionysiac.
Voilà, c'est l'horreur, peut-être, mais c'est aussi la fête.
Dans l'exposition, il y a beaucoup d'artistes contemporains connus. Annette Messager, Hans Bellmer, Robert Filliou, Brassailles Molinier, Magritte ou Alberola. Et aussi quelque chose auquel vous tenez énormément, Antoine de Galbert, beaucoup d'artistes que l'on ne voit pas ailleurs. Vous avez toujours aimé ce qui était en marge?
Écoutez, oui, mais je ne fais pas exprès. C'est pas, je ne cherche pas des artistes marginaux. Hein. Mais je pense, je veux dire, une bonne collection, je pense qu'il faut qu'il y ait à la fois des artistes connus et des inconnus. S'il n'y a que des inconnus, au bout de 20 ans, ça veut dire que vous n'avez quand même pas beaucoup de vision. C'est parce que, bon, c'est quand on achète beaucoup, même sans faire exprès, il y a quand même des artistes qui sont reconnus. Et s'il n'y a que des artistes connus, bah c'est un. Voilà, c'est un. Une accumulation de dollars sur les murs. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Mais il y a des œuvres amies. C'est-à-dire que parfois, j'achète des œuvres. En me disant, tiens, celle-là, c'est évident, elle est, cette œuvre est très très proche, et la sœur de l'autre que j'ai déjà. Enfin oui, on crée une famille, en fait.
J'aimerais bien qu'on évoque certains artistes de votre collection, par exemple l'Ukrainien Boris Mikhailov.
Alors ça, Mikhailov, je l'ai découvert assez tardivement, finalement. On avait fait à la Maison Rouge une exposition qui s'appelait Sotz Art, qui regroupait à la fois les artistes avant 89 et après, qui étaient très opposants avant 89. Ils ont fui l'URSS. Il y en a même qui ont fait de la prison. Et après 89, ils ont fui aussi parce que de toute façon, c'était un régime qui était à peine mieux. Enfin bon, bref. Et donc, Mikhailov, j'ai connu à ce moment-là. Et c'est un des plus grands pour moi. C'est terrible sur le plan de la force des images.
Oui, c'est assez dérangeant même.
Il photographie l'Union soviétique puis la Russie depuis les années 60. Il est ukrainien d'ailleurs.
Il y a des femmes en culottes rouges et en foulard.
Ah non, mais c'est extraordinaire, mais c'est très très dur.
Il y a du sang.
Et on peut rendre hommage d'ailleurs à Suzanne Taraziev, qui était une galerie qui est morte, la pauvre, et qui avait une galerie vraiment gonflée, qui faisait des choix gonflés, et qui était elle-même d'origine ukrainienne, de la même ville que Mikhailov, et qui a fait 10 expos avec lui. C'est elle qui l'a propulsé, en tout cas en France, je crois, ou en Europe.
Un mot sur la tombe d'Éric Pougeot.
Alors ça, c'est une histoire inouïe. Un peu compliquée, parce que ça choque un peu les gens. Donc disons-le.
La photo dans le catalogue.
Voilà, c'est un artiste qui m'a demandé de réaliser sa tombe. Donc en fait, j'ai produit sa tombe. Et cette tombe est, j'en suis temporairement propriétaire. Donc je dois la restituer quand il va mourir. Il mourra certainement après moi. D'ailleurs, je suis en train peut-être d'imaginer que cette œuvre soit donnée temporairement au musée de Lyon, puisqu'elle est très bien installée sur du gazon devant le tramway. Et alors, pour être complet, il faut dire qu'il y a marqué dessus « Fils de pute » en lettres d'or. Et donc c'est une œuvre que je crois que je ne l'ai jamais réellement comprise, parce qu'on ne comprend pas tout. C'est ça qui est génial. Si on comprenait tout, on ferait autre chose. Et c'est une insulte, finalement, à lui-même. Alors, je ne sais pas, je ne lui ai jamais posé vraiment de questions. Mais en achetant cette chose-là, j'ai eu l'impression de transgresser un peu. Et il faut s'exciter quand on collectionne. Si c'est pour acheter ce qu'on aime ou ce que voilà, c'est donc moi très souvent j'achète des choses qui me choquent en fait au fond de moi-même. Mais il faut se marrer. C'est même si l'œuvre est dramatique, il faut quand même aller au-delà de soi-même. Sinon, on n'est pas un collectionneur.
Je pense que la peinture, oui, elle permet d'arrêter le regard. Elle permet de penser. L'image, évidemment, ou de la trahir ou de la faire apparaître, parce qu'après tout, la peinture a servi aussi a été aussi un outil de propagande très efficace. Et dans cette époque très étrange dans laquelle on vit, qui était d'absolument surinformation au détriment d'une qualité d'information, je pense qu'effectivement, la peinture, même quand bien même elle reprend et elle met en scène des éléments symboliques, reste plus proche, en tout cas pour le spectateur, d'une opération d'intelligence. Ouais.
C'est l'artiste Stéphane Pancréac ou Pancrèche, j'ai entendu les deux prononciations.
Moi je dis Pancréac, mais je sais
alors Pancréac à l'Institut du Monde Arabe en 2015. On voit dans votre collection, Antoine de Galbert, c'est Théâtre de la mémoire, des petites maquettes.
Alors c'est un artiste que je connais depuis très longtemps, mais que j'ai redécouvert en faisant sa connaissance réellement, il y a relativement peu de temps, et j'ai découvert qu'à chaque catastrophe, toutes les catastrophes se succèdent. Ce sont les Twins, c'est l'attentat de Nice. À chaque catastrophe, il fait une œuvre qui est composée de un peu de manière un peu presque artisanale, en incluant des photos, en incluant des et qui sont en fait bizarrement très belles, parce qu'en fait le drame peut être esthétique, hein. Et donc au fur et à mesure, j'en ai acheté 2, 3, 4, puis finalement j'en ai acheté je sais pas combien, et donc dans l'exposition il y en a une bonne dizaine, dont les dernières traitent de l'Ukraine, mais c'est très très beau. Et c'est fait, c'est pas maniéré, c'est vraiment bricolé avec des bouts de bois, des bouts de fer. C'est vraiment très très bien. C'est un artiste qui est gonflé, qui crée des œuvres en règle générale qui plaisent pas à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui prend des risques et qui peut être très aimé ou pas du tout apprécié.
Réhabilitons le mot gonflé ce soir dans Grand Canal. Antoine de Galbert, il y a beaucoup d'objets de culte dans vos collections. Oui. Il paraît que vous photographiez les cimetières. Mmh. Il y a une magnifique croix sculptée d'Asie du Sud-Est avec des crânes partout. Oui. Et puis, il y a aussi des créatures assez terrifiantes, comme une sculpture en fer et plumes de Kafi Geledjo Senoufo, qui est terrifiante. Je voulais savoir, vous avez des crânes aussi de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Est-ce que vous avez peur de certaines de vos œuvres ?
Non, pas du tout, parce que vous savez, les objets envoûtés, enfin, ou dites envoûtés dans l'histoire, entre autres, de l'art africain, sont désactivées en quelque sorte. Si vous y croyez pas, elles vont pas vous mordre.
Visuellement, simplement.
Voilà. Mais c'est une collection, alors là. Comment dire, pour résumer, c'est vraiment l'explication de ces objets de culte ou de religion ou de rituel. C'est uniquement que je me passionne pour tout ce que l'homme invente pour expliquer sa mort. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une religion ? Alors après, je vais peut-être choquer les religieux, mais c'est pas autre chose qu'une invention de l'homme pour expliquer sa fin, hein, pour expliquer son. Voilà. Et donc pour moi. Mais je sais que ça déplaisait fortement à ma mère, à l'époque, quand elle était encore là. Mais je mets facilement une croix à côté d'un objet, à côté d'un fétiche. Pour moi, c'est la même chose. Mais en revanche, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient, tout simplement. Et alors, ce qui est très beau, entre autres, dans le catholicisme, c'est que les gens les plus croyants sont les plus modestes, souvent. Les plus simples. L'intellectuel, il peut devenir athée, mais les gens, même en Afrique ou en Océanie. Et du coup, il y a des objets d'une beauté totale parce qu'ils sont faits de. C'est ce qu'on appelle l'art populaire, en fait. Et donc, j'ai une passion pour ça, mais ça ne veut pas dire que je suis un bigot et que je passe ma vie. Je ne suis pas comme. Je ne sais plus qui disait un crapaud de bénitier.
Angie des Rolling Stones. C'est votre choix musical, Antoine de Galbert?
Oui, mais enfin, c'est un choix. Il faut bien choisir quelque chose, mais j'ai adoré ce morceau.
Il ne savait pas où il allait. Il allait sous la lune, mais il ne savait pas s'il allait découvrir des types comme Césaire. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir. Donc il lisait Césaire, il lisait.
La poésie, c'est comme son carburant, la poésie.
Parce qu'il me disait, c'est une poésie d'explosion. C'est une poésie de volcan, d'éruption.
Je pense qu'il a bien compris non seulement l'intention poétique de Césaire, mais qu'il a bien touché, je pense, ce rapport secret que nous entretenons avec l'Afrique de manière populaire et qui est d'accorder à la parole, au vers, donc à la poésie, et notamment encore plus celle de Césaire, la force de se transformer en capacité énergétique.
La dernière voix que vous avez entendue est celle de Patrice Chamoiseau. C'est dans le documentaire « Étoiles » sur Robert Saint-Rose, réalisé par Gilles-Élie Dicozac. Dans l'exposition « Désordre » qui est en ce moment au Musée d'art contemporain de Lyon, Antoine de Galbert, il y a la maquette de la fusée « Étoiles » de Philippe de Gobert. Ça, c'est l'artiste. Mmh. Et je vous laisse raconter l'histoire de Robert Saint-Rose.
Oui, très rapidement, parce que donc Philippe de Gobert, artiste belge, qui est à la fois un grand photographe et qui reproduit sous forme de maquettes extraordinaires des grandes architectures. Là, il a fait ce travail en reproduisant cette sorte de Spoutnik, je ne sais pas comment on appelle ça, une ogive. Et Sainte-Rose, qui était un Antillais, un petit peu perché, je pense quand même, hein, a décidé de construire cet engin pour quitter le monde.
Et aller sur la lune.
Peut-être pas pour nous sauver, mais en tout cas quitter le monde. Et, voilà. Et tout le monde, évidemment, le prenait pour un clown. Et un jour, donc, tout a disparu. L'engin, qui est une sorte de... Ça ressemble un peu à Apollo 8, vous voyez, vous souvenez les... Et puis, et lui-même a disparu. Donc c'est un grand mystère.
Mais surtout qu'il voulait faire décoller sa fusée grâce à l'énergie des poèmes d'Aimé Césaire. Voilà. C'est magnifique
donc
comme idée.
Oui, c'est ça. Il fait partie de l'art brut, en quelque sorte. Quoi. Sauf qu'il y a quand même le mystère physique de la disparition de son corps et de l'engin. Et donc, c'est une œuvre très jolie où il y a la petite maquette réalisée par Philippe de Gobert et une affiche qu'on colle à chaque fois qu'on montre l'œuvre.
Il y a un artiste qui m'a semblé très émouvant, c'est ACM Alfred Corinne Marié. Et Corinne, c'est le nom de son amoureuse qu'il a glissé au milieu de ses deux noms à lui.
Oui. En fait, il s'appelait Alfred Marié. On peut en parler un petit peu aussi. Il vient de mourir, donc c'est un type... moi, j'ai évidemment... je l'ai rencontré, mais je ne peux pas dire que c'était un grand ami. Mais enfin, j'ai des souvenirs avec lui très précis de déjeuner chez eux. Donc c'est quelqu'un qui, au départ, a fait une école de beaux-arts, etc., mais qui très vite est parti dans 10 ou 15 ou 20 ans de solitude. Là, je suis pas très précis parce que je me souviens plus. Et puis, il s'est remis à travailler, à faire des sortes de constructions avec des électrodes de radio. Et sa femme l'a beaucoup aidé, je pense, à revenir au monde, en fait, à se réaliser comme artiste. Et donc, il a définitivement adopté le pseudo d'ACM, Alfred Corinne, qui était sa femme. Et alors, il y en a beaucoup. C'est une œuvre moi, je trouve ça magnifique. On dirait des petits palais idéal de facture cheval. Vous voyez, mais tout ça fait avec des matériaux très précis. Et il y en a beaucoup à Villeneuve-d'Ascq, entre autres, au musée qui conserve la collection de La Racine.
Il y a aussi la sud-africaine Jeanne Alexander qui fait des sculptures fantastiques très réalistes.
Alors Jeanne Alexander, c'est une blanche sud-africaine qui faisait partie de ces blancs qui ont combattu l'apartheid. Et ce sont des œuvres absolument incroyables. Et dans l'exposition My Joburg qu'on avait fait à la Maison Rouge sur la ville de Joburg, on avait recréé une installation énorme avec du faux gazon, des fils de fer barbelés et ces personnages très bizarres qui sont entre animaux et humains qui font penser à des sortes d'esclaves ou de... je sais pas comment on peut dire.
Un petit mot sur le Canadien Neil Farber.
Alors Neil Farber, il faisait partie d'un collectif à Winnipeg. Ça aussi, c'est une expo de la Maison Rouge. Parce que moi, j'achetais dans mes expos aussi, c'était génial. Et c'est My Winnipeg, on avait fait une expo extraordinaire, il y a une des premières d'ailleurs sur les villes. Et il y avait un collectif qui s'appelait, j'ai oublié, peu importe, et où il y avait Marcel Zama, enfin ils étaient 4 ou 5. Et voilà, et donc ben, c'est un tableau que j'ai acheté à l'époque. Winnipeg est une ville un peu dévastée, un peu has-been, puisque c'était une ville très importante autrefois, dans une zone tellurique, un peu très magique, où les Indiens, alors je sais pas s'il faut dire Indiens, on sait plus ce qu'il faut dire maintenant, où les indigènes, on dit pas non plus, autochtones non plus.
Amérindiens?
Les Amérindiens, oui, les peuples d'origine, en tout cas, sont assez maltraités, sont assez désocialisés. C'est assez impressionnant.
Vous faites aussi, vous donnez à voir aussi l'artiste belge, sculpteur, photographe et chef d'atelier aux Beaux-Arts de Paris, Olivier Blancard, qui se déguise en pleine oui. personnalité, alors, en Balzac, en David Lynch, en Guy.
Alors Blancard, c'est un artiste qui a autant d'ennemis que d'amis, parce que c'est une sorte d'activiste qui adore foutre le bordel partout où il passe. Mais j'aime beaucoup, parce qu'il est totalement... D'abord, ce travail est extraordinaire.
Oui, parce il que peut être durasse.
Il a fait d'autres choses. Hein. Il est aussi comédien. Quand il se photographie comme ça, il peut se faire grossir, maigrir, changer de couleur de cheveux.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc c'est vraiment un travail quand même. Au moment où il appuie sur l'objectif, il est plus qu'un plasticien. Et puis, c'est un numéro, tout le monde le connaît. Et c'est un artiste très passionnant, très cultivé d'ailleurs, mais très provoque.
Antoine de Galbert, vous aimez bien citer cette phrase du collectionneur et résistant Daniel Cordier qui disait qu'il avait trouvé dans les œuvres ce que les hommes n'avaient jamais pu lui donner. Qu'est-ce que les hommes n'ont jamais pu vous donner?
Alors ça, c'est trop personnel.
Vous avez le droit de ne pas répondre, évidemment.
Oui, j'en sais rien, mais j'aimais beaucoup cette phrase. On a tous un manque de tactile, de tactilité, de... On a tous des problèmes de relationnel.
Bien sûr, c'est terrifiant l'humanité. Alors,
quelqu'un d'autre avait dit que les œuvres étaient comme le chien, elles répondaient pas. Et finalement, c'est peut-être pour ça que c'est plus simple d'avoir une œuvre à côté de soi que d'avoir quelqu'un qui vous contredit, qui vous emmerde toute la journée.
Et vous savez, il y a d'autres types de rapports aussi.
C'est vrai.
Et certains chiens aboient très fort. Vous dites aussi que votre collection dresse une sorte d'autoportrait. À quoi ressemblez-vous, à votre avis?
Ça, je ne l'ai pas vraiment dit, parce que je ne pense pas que c'est vrai. Je ne pense pas que... Non, peut-être on peut, en creux, on peut voir des fantasmes ou des peurs d'un collectionneur. Mais je pense que... Enfin, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez conventionnel. Je suis un bourgeois de province, en fait.
Enfin, dans votre collection, c'est rien
oui,
de conventionnel.
Oui, mais justement, c'est ce que je veux dire. C'est que je ne m'intéresse pas aux gens qui sont comme moi. Donc ce qui m'intéresse, c'est la différence, c'est de rencontrer un mec qui n'a pas la même couleur de peau, qui, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, la collection, c'est ça, c'est aussi... donc si c'était mon autoportrait, je serais vraiment gravement abîmé, parce que c'est une collection quand même assez violente.
Ailleurs et altérité, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup Antoine de Galbert.
Merci beaucoup.
Je rappelle que votre exposition Désordre est visible au Musée d'Art Contemporain de Lyon jusqu'au 7 juillet prochain. Si l'on ne peut s'y rendre, on peut se procurer le catalogue, comme pour l'exposition précédente d'ailleurs, Une histoire d'image, donation Antoine de Galbert au Musée de Grenoble. Catalogues qui sont tous édités par Empire et votre fondation. À signaler aussi, en mars 2025, il y a une exposition qui s'appellera Énormément Bizarre. Ce sera une donation de la fondation Antoine de Galbert, de la collection donnée par Jean Châtelut, et ce sera au centre Pompidou. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, la technique Baptiste Collion. Et dans un instant, Very Good Trip, j'invoque Mishka Assayas sur les ondes. Mishka, vous êtes là? Ah non. Alors, vous n'êtes pas en direct ce soir?
Ah bah si, je suis parfaitement en direct.
Ah bah vous
me
répondiez pas.
Mais non, mais parce que j'entendais plus.
Ah mince.
Bon, alors bref.
Pour la radio, quel est le programme?
Alors, quel est le programme? Eh bien, ce soir, ce seront des styles américains traditionnels, des voix très singulières et de fort caractère. Voilà.
Ah bien, écoutez, je me prépare.
Merci.
À tout de suite.
Tout de suite.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors,